Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Propulsé par mademoiselle.com.
Bonjour, bonjour, bonsoir les popcorneux, et bienvenue dans un nouvel épisode de Sors le Popcorn. Alors cette semaine, on reprend les formats plus longs dont on avait l'habitude dans Sors le Popcorn, et on va parler d'une série toute particulière, puisqu'elle n'est pas du tout nouvelle, comme on a l'habitude de parler que des films et des séries qui viennent de sortir. C'est vrai que ça sort un peu de nos habitudes. Et pour m'accompagner à ce jour, j'ai l'honneur de vous présenter Lucie. Qui est...
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit
eh
peu?
Eh bien, oui, je suis la rédactrice beauté de Mademoiselle et voilà. J'aime beaucoup la série dont on va parler. T'as déjà présenté? J'ai oublié.
Non, j'ai pas encore dit.
Ah, t'as pas encore dit. Eh ben, j'adore cette série. Vous verrez plus tard.
Et Caroline.
C'est moi, Caroline, et je suis la rédactrice mode de Mademoiselle.com.
Eh bien, je suis ravie de vous avoir toutes les deux aujourd'hui pour parler de New Girl. Voilà,
oui,
le secret est sorti.
My
on
God.
Va parler de New Girl. Alors. Tous les popcorners vont être là, ouais, mais pourquoi vous parlez New Girl alors que la série s'est terminée en 2018? C'est une vieille série qui a commencé en 2011 en plus.
Enfin, choc, 2011.
Ouais, 2011-2018. Oh, bah oui, parce que la saison 7 est sortie vraiment après les autres, il me semble.
Oui, c'est ça, c'est... j'étais en Écosse, je me rappelle.
Voilà, vous saurez foutre, mais... que, elle était en Écosse. Lucie. Du coup, pourquoi on parle de cette série? Eh bien, justement, parce que je pense que le confinement a été propice à rebinger de vieilles séries et surtout des sitcoms. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, j'avais très envie de binger des trucs qui étaient comme des doudous pour moi,
ouais,
que j'avais
ça.
L'habitude de voir et dont je connaissais l'issue. Mmh. New Girl, c'est assez feel good aussi. Et pendant le confinement, donc, on l'a toutes matée ou rematée. Et on s'est rendu compte que la série avait
vieilli.
Du coup, on va venir parler un petit peu de ça, de ces séries qu'on aime beaucoup, mais qui vieillissent pas mal, et de comment ça vieillit. Alors, je vous fais vite fait le synopsis de New Girl. Donc, c'est l'histoire de Jess qui découvre l'infidélité de son petit ami. Comment s'appelle-t-il?
Spencer.
Spencer, putain. On a une pro de chez pro du côté de Lucie qui a bingé cette fois la série. Non, je rigole. Donc, Jess a découvert que Spencer lui était infidèle et donc elle décide de déménager et en regardant sur Craigslist, tombe sur une annonce de colocation. Elle pensait que c'était des femmes et en fait, elle se retrouve en coloc avec quatre hommes. Trois au début.
Ouais.
Trois hommes du nom de... Donc, il y a Coach, il y a Nick et il y a Schmidt. Et finalement, Coach va partir assez vite dans la saison 1 et c'est Winston qui va venir le remplacer en tant que quatrième roommate. Et la meilleure amie de New Girl, c'est Cici. Cecilia, qui est une mannequin. Donc voilà, et c'est l'histoire un peu de cette cohabitation entre amis. C'est leur quotidien, c'est une sitcom. Hein, donc, ça...
Oui, il n'y a pas de rire débile au fond, mais c'est une sitcom. Quoi. C'est des épisodes de 20 minutes, ça se regarde bien, c'est pas prise de tête, c'est very funny. Et voilà,
voilà, c'est ça. Et donc ça parle de déboires sentimentaux, de chercher sa place dans le monde à l'âge adulte. Enfin, ils ont quoi? Ils ont 30 ans, une trentaine
d'années? Ouais, ils ont la trentaine, tous à peu près.
Ils ont la trentaine, mais ils sont un peu tous paumés quand même. Hein, donc, enfin, c'est pas des gens. Non, mais c'est intéressant aussi parce que c'est pas des gens qui ont leur vie en main, qui.
Oui, c'est
enfin, leur vie en main au sens dont on l'entend tous les jours, tu vois, genre. T'es sur les rails de la vie, eux ils se cherchent encore et je trouve ça ultra intéressant justement d'avoir des personnes de 30 ans qui se cherchent encore. Donc je vais vous poser la première question, chers invités. C'est quoi votre relation à New Girl? Je pense qu'on peut commencer par Lucie.
Ouais, bah alors moi, New Girl, j'ai commencé... En fait c'est marrant parce que j'ai commencé dans les... Enfin, j'avais des potes qui regardaient depuis hyper longtemps quand j'étais au lycée et quand je me suis mise à New Girl, j'étais là, waouh, mais c'est génial ce truc et tout. Et elles étaient là, quoi, mais ça existe depuis longtemps. Enfin, je sais pas, je crois que j'ai commencé à la saison 3, un truc comme ça. Je sais plus, j'ai eu
t'as
mon bac.
T'as commencé à la saison 3 ou t'as.
En fait, j'ai eu mon bac en 2014, ça a commencé en 2011. Donc, ouais, j'ai dû prendre en route à la moitié de la série, en gros. Et donc, j'ai recommencé depuis le début. Mais disons qu'il y a plein de gens qui connaissaient depuis déjà 3 ans, quoi. Mmh. Et voilà, j'ai toujours trop aimé cette série. En fait, je m'attendais pas du tout à ça parce que je trouve que le titre est un peu. Enfin, est pas très vendeur, en fait. Enfin, c'est ouais. pas. Ça correspond pas à ce à quoi on s'attendrait. Enfin, pour moi, New Girl, je m'attendais à un truc un peu girly, justement, et un peu. Un peu fanfreluche, enfin tu vois, je sais pas, mais et du coup.
Fanfreluche.
Fanfreluche,
je pense que c'est la première fois que ce mot est utilisé dans ce podcast.
Je suis honorée. Non, mais voilà, je m'attendais à un truc plus bah, de type Gossip Girl ou Girls, tu vois, enfin il y avait Girl dedans, alors qu'en vrai, pour moi, c'est plus une série. Enfin, sitcom, quoi, et genre. Bref, voilà, du coup, j'ai toujours aimé cette série, j'ai toujours trouvé ça très marrant, et.
Et tu l'as rematé pendant le confinement.
C'est ça. Du coup, en fait, bah, un peu comme toi, je me suis dit, j'en avais marre des séries un peu dark et tout. Genre, j'avais commencé Mindhunter. J'étais, en fait, c'est pas possible pendant le confinement de regarder ça parce que vraiment, c'est le truc le plus déprimant. Enfin, c'est dur à regarder, tu vois.
Bon, c'est pas déprimant. Moi, j'adore, non, mais... tu vois, ben, typiquement.
C'est ce que non, je mais c'est pas New Girl, quoi, en termes de feel good.
Oui,
et
oui,
tout.
C'est clair.
Du coup, j'étais, ah non, il faut un truc un peu plus léger et tout. J'avais fini Brooklyn Nine-Nine et du coup, je me suis dit, bah, t'es quoi, New Girl? Puis, en fait, mon mec voulait pas qu'on le re-regarde parce qu'on l'avait déjà vu ensemble une fois. Et puis, il a fini par céder parce que ça l'a à nouveau fait rire. Donc voilà, maintenant on re-regarde. J'en suis à la saison 4 maintenant.
Ok.
Voilà.
Et toi, Caro, du coup, c'est quoi ta relation à New Girl ?
Eh bien, moi, je connaissais pas. Enfin, je connaissais parce que on m'en avait déjà parlé. Mais en fait, j'avais jamais regardé de sitcom avant le confinement parce que, genre, ça me disait pas du tout. Genre, j'avais l'impression que c'était des trucs cheap avec de l'humour à 2 balles et des rires derrière et tout. Et genre, vraiment, ça me disait pas du tout les sitcoms, tu vois.
Et donc, t'as jamais regardé genre Friends, How I Met et tout?
Non, pas okay. du tout. Genre, ça me disait pas du tout. J'étais là, c'est toujours, ça a toujours l'air d'être des adultes un peu ratés, tu vois. J'étais là, bon, ça me parle pas là tout de suite dans ma vie. Et puis, un jour, j'ai décidé de regarder Brooklyn Nine-Nine parce que ben, des gens ici chez mademoiselle.com regardaient. Je me suis dit, bon, d'accord, je vais regarder. En plus, il y a un corgi, bref, un chien mignon.
Ça, coup... Il en faut pas beaucoup pour convaincre Caro. Il y a un chien dans la série.
C'était vraiment l'élément qui m'a fait ah, mais il y a un corgi, c'est bon. Et du coup, j'ai regardé ça. Et en fait, comme j'ai ultra kiffé et que ma soeur m'a dit, mais tu sais que New Girl, c'est le même genre de série, c'est le même, enfin, c'est une sitcom quoi.
Mais d'ailleurs, il y a un crossover aussi. Entre Brooklyn Nine-Nine et New Girl. C'est dans la saison.
Je crois que c'est la saison 4 de Brooklyn Nine-Nine et 6 de New Girl.
Bon,
comme
voilà,
on a vu récemment.
La meuf a pris des notes. Mais en gros, donc c'est un épisode où les personnages de New Girl voient New York visiter la mère de Schmidt, il me semble. Ils croisent dans le métro et Jess croise Jack Peralta.
Il carjack sa voiture, genre. Pour,
ouais, Jack Peralta. Il carjack pas, il réquisitionne sa voiture.
La peau carjack et le char, quoi.
Après, t'as Nick et Winston qui croisent Boyle dans le métro. Enfin, voilà, il y a un vrai crossover entre les deux séries qui font 2 épisodes dans chacune des séries.
Quand je suis arrivée à la fin de Brooklyn Nine-Nine, une personne nommée Lucy m'a dit « Eh, mais tu sais, tu devrais regarder New Girl. » Et comme ça faisait plusieurs personnes qui me disaient « Tu devrais regarder New Girl », j'ai dit « Bon, d'accord. » Donc, commence à regarder New Girl avec Lucie, comme en plus on mangeait des pancakes en même temps, tout m'a paru très agréable. Donc, je me suis dit,
la genèse.
C'est super, je vais continuer. Et donc j'ai continué et j'ai tout regardé et je me suis rendu compte que les sitcoms, en fait, c'était marrant. Vraiment hilarant.
Alors, mais ça, est-ce que ça va te donner envie d'en regarder d'autres ou pas?
Eh bien, possible, parce que c'est comme ce que tu disais, en fait, au final, c'est un truc hyper doudou. Tu te dis, ah, je vais regarder un truc un peu marrant, et puis...
Puis
comme,
tu peux t'endormir toujours... devant sans problème.
Ouais, c'est ça, c'est toujours un peu chaleureux et drôle, et en fait, ben, c'est pas de l'humour si stupide que ça, en fait, c'est stupide, mais en fait, ça me fait rire, et finalement, j'étais trop hautaine.
J'ai découvert que j'avais de l'humour débile, voilà.
Voilà, j'en suis heureuse.
Ben écoute, c'est assez cool que t'aies jamais regardé de sitcom avant, je pense que du coup, t'auras pas mal de choses à dire. Et du coup, Lucie, par exemple, qu'est-ce que t'en attendais de ce rebingeage, en fait? Ça faisait longtemps que tu l'avais maté ou pas, la série?
Ben, en fait, je m'étais arrêtée quand j'étais en Écosse, voilà. Il y a 2 ans, en fait, j'avais regardé, du coup, la dernière saison qui venait de sortir.
Qui était un peu décevante, on peut le dire sans spoiler.
Oui, c'était un peu... ça se voit qu'ils voulaient boucler le truc, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais voilà, je savais que c'était une série que j'adorais et je l'avais déjà vue... En gros, j'avais déjà vu la série 2 fois en tout. Mais depuis, il y a 2 ans, je l'avais pas revue et du coup, bah, j'avais du temps dans le confinement. Donc, je me suis dit, vas-y, on va regarder ça. J'en attendais rien de particulier, si ce n'est que... Je sais pertinemment quels épisodes j'aime du plus profond de mon cœur et lesquels vont me faire rire, etc. Donc, c'était plus pour me faire plaisir. Et j'attendais ce que j'attends d'une série que je connais par cœur, quoi. Donc c'était, il y a rien qui m'a particulièrement surprise, si ce n'est quelques éléments dont on va parler plus tard. Mais voilà, c'était, j'en attendais voilà de l'amour, beaucoup d'amour, et
oui, parce beaucoup que, de rire. Parce que en fait, finalement, cette série, donc, a commencé en 2011 et qui s'est terminée en 2018. On s'est rendu compte en la regardant toutes les trois que en fait, il y avait pas mal d'humour qui ne serait plus possible aujourd'hui. Et c'est souvent le cas, en fait, avec les sitcoms, je trouve, de l'humour qui vieillit rapidement, parce que c'est de l'humour simple, efficace, dans l'actu, souvent, aussi. Et du coup, en fait, c'est des séries qui vieillissent assez vite et pas forcément bien. Donc, on va parler un petit peu de ça. Juste avant de passer au spoiler, je vais vous demander de pitcher un petit peu votre personnage préféré de la série. Mais j'ai peur qu'on ait toutes le même, mais c'est pas grave, j'en prendrai un autre.
C'est qui, vous? Toi, c'est Winston.
Moi, c'est Winston.
Moi, je
200%.
Peux présenter Schmidt, je l'adore.
Ah ouais, t'adores Schmidt?
Mais oui, mais c'est mon prêtre.
En vrai, je crois que moi, c'est Nick, donc...
Ah bah parfait. Voilà.
Bah vas-y, Alix, commence.
Donc, bah, en fait, donc on va vous présenter vite fait, si vous avez jamais vu New Girl, pour vous donner un petit peu envie. New Girl, enfin, Jess, le personnage principal, est joué par Zoé Deschanel, qui joue aussi dans...
500 Days of Summer.
500 Days of Summer, par exemple. Enfin, voilà, c'est une actrice assez connue, et donc c'est le personnage principal. Anna Simone joue Sissi, qui est sa meilleure pote mannequin. Voilà. Et donc, le mien, mon personnage préféré, s'appelle Winston, et il est joué par Lamorne Morris. Et en fait, c'est un personnage que je trouve assez cool parce que, en fait, il a, je pense, aucune profondeur dans la saison 1, et ça, je l'ai vraiment revu.
J'étais choquée à quel point, au début,
il sert à rien, et en fait, il n'est pas du tout creusé. Et en fait, donc, c'est un peu dommage toute la saison 1, et en fait, après, on lui trouve une qualité, une caractéristique qui est qu'il sait pas faire des pranks. Donc, pour vous définir.
Prank Sinatra.
Prank Sinatra. Et donc, pour vous définir un peu le terme prank, ce sont des blagues un peu comme des.
Des farces, quoi.
Ouais, des farces, ouais. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais c'est genre faire. Jouer un tour, quoi. Enfin, oui, c'est ça, c'est jouer des tours aux gens. Et en fait, soit il fait des trucs beaucoup trop gros, donc c'est-à-dire qu'il va, je sais pas...
Viens, on va frapper la tête de machin avec un ski.
C'est trop... Enfin, il pense que c'est drôle et en fait, ça l'est pas du tout. Ou à un moment, il inscrit Nick en tant que sex offender à la police, tu vois, genre je suis là, quoi? Mais quoi?
Le mec est mort de rire.
Il est mort de rire, il est là, c'est excellent, n'est-ce pas? Et sinon, ou alors, il fait des pranks beaucoup trop petites et donc il veut chatouiller des gens avec des plumes mais genre il est mort de rire, enfin bon bref, c'est vraiment un personnage du coup qui devient ultra particulier et qui n'existe je pense dans aucune autre sitcom. Il est un peu à la fois stupide et à la fois très je sais pas, dans l'esprit du groupe, c'est un peu un pilier de la coloc.
Et... Oui, c'est celui qui arrive le plus à prendre du recul sur les trucs qui se passent, quoi, en
c'est
termes
ça.
De sentiments.
C'est ça, et en fait,
c'est
peut-être le moins névrosé aussi, j'ai l'impression.
Et celui qu'on prend le moins en sérieux en même temps. Donc
et celui qu'on prend le moins
et
en sérieux.
Et il a son chat, t'as pas parlé de son chat, Ferguson?
Ah oui, bien sûr, et il a un chat, donc il l'a volé à son ex.
J'avoue, j'avais oublié que c'était ça, en fait.
Donc il l'a volé à son ex, son chat, c'est Ferguson, et il l'aime plus que sa propre vie, donc... et que sa propre mère et que tout le monde en fait. Voilà, donc c'est Winston, mon personnage préféré. Et vous, du coup?
Moi, du coup, je suis absolument fan du personnage de Schmidt. Alors Schmidt, c'est un personnage où dans le premier épisode t'es là mais quel énorme connard ce mec, parce que en fait c'est un gars qui est très au début il est vraiment vendu comme un serial lover, c'est genre le mec, son but c'est de faire tomber toutes les meufs, et en vérité tu te rends compte que c'est une ancienne victime, en fait, Schmidt. C'était un mec qui était gros à la fac et qui était souvent vu comme... il était souvent friendzoné, en fait, par beaucoup de meufs. Et en fait, il a subi un gros changement physique. Enfin, il s'est mis au sport, etc. Et il est devenu un peu un connard d'école de commerce, tu vois. Genre, à la fois, c'est un mec ultra... moi, je vais me faire plein de meufs, machin. Et à la fois, bah, il a du chutney pour les cheveux. Il a toujours des produits de beauté ultra improbables. Il est ultra soucieux de ses
costumes. Après, c'est pas incohérent,
tout.
Tu vois, de vouloir
se
faire BG pour choper de la go.
C'est ça, mais il est toujours très... dans le luxe, etc. Il adore les costumes qui coûtent cher. Il est très maniaque aussi. Il supporte pas. Enfin, il a des petites névroses comme ça de quand il cuisine, il faut pas le faire chier. Et moi, il me fait mourir de rire.
Je trouve pas que c'est genre un mélange de Monica Geller dans Friends et de Barney Simpson. De Barney
J'ai
Stinson.
Jamais regardé ni Friends ni How I
Met.
Bon,
ben, je le dis pour pour les auditeurs auditrices. Pour moi, Schmidt, c'est vraiment un mélange de Friends et enfin de Monica Geller qui était pareil, une ancienne grosse qui est devenue ultra maniaque et qui est devenue un canon de beauté, et Barney dans How I Met Your Mother qui est un putain de serial shopper métrosexuel aussi, très très connard.
Oui, au début en fait Schmidt, c'est vrai qu'il est vraiment présenté comme un connard, mais très vite on se rend compte que bah, c'est un gars qui a aussi beaucoup de sentiments et d'émotions, etc.
Il est fou, amoureux de Nick.
Aussi. Non mais c'est ça, même il a un rapport à ses amis qui est quand même très particulier et très genre...
fusionnel.
Voilà, il est hyper fusionnel, il est, ses potes c'est toute sa vie et genre...
Il a pas peur de dire qu'il les aime et tout.
Oui, c'est ça. Genre... Il les embrasse sur la bouche toutes les trois secondes. Genre.
Il est trop chiant.
Et en fait, c'est trop marrant parce que voilà, c'est ce côté un peu ambivalent et moi je le trouve trop marrant, et c'est surtout qu'il est souvent tourné en ridicule parce que souvent ce qu'il fait et ce qu'il dit c'est ridicule. D'ailleurs, on va en parler par rapport au racisme, etc. C'est un gars qui fait tout le temps des commentaires racistes en fait, mais il est tout le temps tourné en ridicule à ce niveau-là, et je sais pas, moi il me fait trop. Je trouve que l'acteur est génial en fait, au niveau de ses expressions, du
c'est
visage.
C'est Max Greenfield du coup, l'acteur de.
C'est ça, et je sais pas, il me fait mourir de rire, et en fait j'aimerais trop connaître un gars comme ça dans la vraie vie, tu vois, je me dis.
Bon,
mais en fait, je me dis.
Il m'insupporterait tellement.
Mais non, mais genre, il est zinzin, tu vois, genre.
Bah, il est
zinzin. Y a rien qui va chez cette personne. En fait, je me dis que c'est un gars qui existe pas vraiment sur Terre, genre, il est complètement zinzin, il est fou, et c'est pour ça que c'est ma passion, Schmidt. J'aimerais trop, avoir quelqu'un comme ça que je connais, qui est aussi taré que ça.
Non, mais. D'accord. Et toi, Caro, du coup, tu veux nous présenter Nick, qui est le dernier des colocs de Jess.
Donc, moi, donc, mon perso, je pense, bref, c'est Nick. Et donc, pourquoi ? Eh bien, parce que, alors, au début, je le détestais. Je le trouvais absolument insupportable et mou, parce que dès le premier épisode, il est là à penser qu'à son ex et tout, et c'est vraiment insupportable.
Ouais, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un d'insupportable.
Je le haïssais, et plus les saisons ont passé, plus je me suis rendu compte que je l'aimais bien, tout simplement parce que je le trouve hilarant. Enfin, je sais pas, il me fait trop rire. Ben, lui aussi, je trouve qu'il a des mimiques débiles et tout, mais pour le coup, lui, il est drôle dans le sens où... Parce qu'en fait, il est vraiment stupide, quoi. Genre, il est vraiment que de la merde tout le temps. Il y a jamais rien qui va.
Puis il est super peureux de tout aussi.
Ouais, c'est un enfant, vraiment. C'est un enfant, mais
il
dans un
corps
d'adulte.
Il mange des céréales à genre 14h, tu vois.
Voilà, il est insupportable, et c'est ça. Mais en fait, c'est justement ça aussi qui m'avait fait rire dans Brooklyn Nine-Nine. C'est les gens qui ont un humour d'enfant. Je me rends compte que c'est juste hilarant, en fait, parce que ça a tellement pas de sens. Et c'est pour ça. Et donc, oui, donc c'est cette personne, ben, c'est oui, un peu. Ben, en fait, c'est tous un peu des losers à la base, mais genre lui, vraiment plus que les autres, quoi. Il sait vraiment rien faire, et tu te dis, s'il vivait seul, à mon avis, il serait mort.
Ouais, mais il le dit plusieurs fois d'ailleurs dans la série que. Ouais. Sans Schmidt, Nick...
Oui, c'est un peu le personnage antagoniste de Schmidt, c'est-à-dire que autant Schmidt, c'est un gros maniaque, autant Nick, c'est...
L'inverse total.
Sa chambre, c'est genre un bordel monstre, il y a de la bouffe à peu près partout qui moisit depuis 72 ans.
Et puis, je sais même pas comment il fait pour payer son loyer, parce qu'il a littéralement jamais d'argent. Genre vraiment, on ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie. Pour
il est barman, quoi.
Oui, il est barman, mais genre, je veux dire, je ne sais pas ce qu'il fait pour ne jamais avoir d'argent, mais il a jamais d'argent, genre. Vraiment, pas un rond, apparemment, il ne paye pas non plus son loyer et tout, enfin bref, c'est horrible. Mais il évolue vachement, et du coup, ben, c'est ça qui me plaît. J'aime bien les persos qui évoluent de manière drastique.
Ouais, je comprends. Et surtout, je pense qu'en fait, là, on a parlé donc des trois colocs originels de Jess. Et je pense que c'est en ça, enfin, c'est juste maintenant que je me rends compte, parce que je me suis toujours demandé pourquoi ça s'appelait New Girl, alors qu'en fait, ça parle d'une histoire d'amitié et pas forcément d'une meuf. Enfin, on suit vraiment toutes les storylines de tous les personnages et pas forcément que celle de Jess. Et je me suis toujours demandé, mais en fait, c'est quand en fait, on arrive dans la position de la nouvelle, enfin de New Girl, on arrive en tant que Jess et on va devoir aimer ces trois personnages qui en fait n'ont aucun sens et donc voilà, et on se retrouve à finalement les aimer, bah toi Nick au bout de quelques saisons, moi Winston au bout bah, de plus d'une saison du coup, Schmidt aussi qui paraît insupportable au début, et donc c'est vraiment l'idée de se retrouver dans une coloc et d'apprendre à aimer les personnes. Voilà, voilà, bah, écoutez, je vous propose de passer au spoiler.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Voilà, vous entendez l'alarme des spoilers, ça veut dire que sur le popcorn va tout vous spoiler de New Girl de la saison 1.
Cette série
1.
Tout à fait nouvelle que personne ne connaît,
personne n'a jamais regardé. De la saison 1 à la saison 7. Voilà, alors, c'est une question assez large, mais comment vous voyez la série, enfin comment vous voyez que la série a vieilli ? Je pense qu'on peut commencer par toi, Caro, du coup, vu que tu l'avais pas vue avant, donc tu l'as déjà connue vieille, tu vois.
C'est vrai, tout à fait. Et en fait, donc moi, en vrai, dès que j'ai commencé, en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai regardé ça parce que j'ai regardé Brooklyn Nine-Nine avant et je me suis dit, en fait, c'est marrant les sitcoms. Et en fait, justement, quand j'ai regardé Brooklyn Nine-Nine, je m'attendais à ce que ce soit un truc qui ait vieilli. Et en fait, j'étais hyper surprise du fait que j'avais trouvé ça woke dès la saison 1. Mmh. Sauf que j'ai regardé la saison 1, c'est genre 2013, je crois, alors que New Girl, c'est 2011. En soi, c'est pas si loin, tu vois. Mais donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'étais vachement choquée dès les premiers épisodes de New Girl de me rendre compte à quel point c'était misogyne. Mais vraiment, enfin. Après, ça évolue. Les tout premiers épisodes, en fait, j'avais l'impression de voir une série sur le mansplaining. Genre, c'était vraiment la définition du mansplaining. C'est une fille, donc Jess, hyper crédule, hyper naïve.
Oui, parce qu'il faut qu'on dise que Jess est super... Fin...
Oui, on est sur une personne zinzin aussi, mais zinzin, genre... Elle, c'est pareil, elle a environ 12 ans dans sa tête pour pas mal de trucs et elle croit beaucoup de choses et elle a du mal avec pas mal d'interactions sociales finalement. Ouais. Elle a un petit côté comme ça.
Un petit côté, oui.
Ouais, mais justement, genre, elle, du coup, elle vient. En fait, elle passe sa vie à se faire expliquer la vie par trois mecs, du coup. Et vraiment, moi, je voyais que ça pendant toute la première saison. C'est une meuf qui se fait expliquer la vie par trois mecs. Et même quand il lui explique des trucs hyper évidents ou hyper misogynes, elle a ah d'accord et tout. Et elle se défend jamais, en fait, quand ils sont. Hyper misogyne, donc moi c'est ça qui m'a vraiment genre choquée au début. Et si j'ai continué à regarder, c'est parce que c'était tellement drôle, je me suis dit, bah peut-être qu'en fait, au final, ça va évoluer, donc je vais lui donner une chance. Et au final, bon, bah la saison 2, ça évolue pas trop, 3, un peu plus, et bref, au final, ça a évolué, mais je trouve que c'est quand même trop récent. Enfin, moi en fait, quand je compare ça à d'autres séries de la même époque, j'ai trouvé que c'était quand même vachement récent pour être si problématique.
Après, faut se dire aussi qu'en 2 ans, il a le temps de se passer beaucoup de choses, tu vois.
C'est vrai.
Que, entre par exemple donc Me Too c'était en 2017 tu vois entre les séries qui ont commencé qui ont fait leur saison 1 en 2016 et celles qui ont commencé en 2018 tu vois rien à voir enfin tu vois forcément il y a des après je comprends que Brooklyn Nine-Nine pour le coup moi pareil j'ai jamais ressenti trop ce truc de vieillissement comme New Girl qui
oui
peut
même
paraître...
au contraire Brooklyn Nine-Nine c'est justement très woke que je trouve et il y a beaucoup de choses
ça,
qui sont faites de façon hyper naturelle en mode tout ce qui est de l'ordre du féminisme j'ai toujours trouvé que c'était naturellement féministe enfin c'était pas en mode comme la Casa des Papel où ils sont là genre ouais vive les femmes enfin genre tu sais c'est un peu
oui,
plus
oui, c'est un peu forcé
ostentatoire
le trait,
hein. Alors que Brooklyn Nine-Nine c'est plus naturel
smooth.
Et quoi
smooth
C'est plus smooth.
Et New Girl, pour le coup, oui, c'est pas franchement dans la même lignée que...
Est-ce que t'as des exemples de moments où les mecs lui expliquent la vie et,
Ben, alors, il y a des trucs où, genre, par exemple, déjà, Nick, du coup, il est tout le temps en train de dire les hommes ci et les femmes ça. Et genre, par exemple, à un moment donné, donc, elle a un plan cul et genre, elle dit qu'elle... Enfin, elle va voir Nick pour lui expliquer qu'elle commence à s'attacher, qu'elle sait pas comment faire et tout. Et il lui sort un truc genre, non, mais ça, c'est parce que t'es une femme. Mais genre, en fait, je trouve que c'est pas assez clair pour qu'on comprenne que c'est une blague, tu vois, dans le sens où... Autant...
Mais c'était peut-être pas une blague, hein. Je pense
justement, c'est ça.
Et super sérieux quand il dit ça, parce que pour le coup, je pense que Nick, c'est un peu bah, ton pote pas woke. Tu vois,
c'est ça, mais en fait,
les trucs
même
de masculinité,
dans la série, je trouve que autant il y a des blagues des fois misogynes où on voit clairement que c'est caricatural et que c'est fait exprès pour se moquer un peu des mecs misogynes. Autant là, c'était un moment où on voyait que peut-être les scénaristes, ils avaient écrit ça vraiment en mode premier degré, tu vois. Et donc, du coup, il lui explique comment on fait pour pas s'attacher et tout. Il y a d'autres trucs, même, je sais pas, genre, elle doit s'acheter un meuble et du coup, elle va voir... elle dit, est-ce que tu peux le faire et tout. Il fait, non, mais je suis pas ton copain, donc il faut que tu trouves un copain si tu veux qu'il te construise ton meuble.
Ah,
enfin,
oui,
de choses comme ça, tu vois.
Oui, cet épisode genre, où... cet épisode sur la friendzone, moi, il me gêne beaucoup. Mais d'ailleurs, la friendzone me gêne en règle générale. Que, en gros, tu sais, Nick dit que...
Qu'il est son fluffer, son emotional fluffer.
Et cet épisode est un peu chelou parce que Bah en fait, si, on a le droit d'être amis avec des hommes et de faire des choses avec eux sans que ce soit nos petits copains, tu vois.
Mais tout est très stéréotypé, en fait. C'est ouais. vraiment... Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Et en fait, il y a peu de zones grises. Et c'est... Moi, c'est ce qui me frappe le plus maintenant que je le re-regarde, c'est que... Autant pour le racisme, on en parlera plus tard, mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit une série raciste dans le sens où, à chaque fois qu'il y a du racisme qui est fait, c'est toujours tourné en ridicule pour moi.
La prise de position, elle est beaucoup plus forte, je trouve.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est très clairement, c'est Schmitt, c'est caricatural, tu vois, genre, c'est beaucoup trop fort. Mais pour tout ce qui est de l'ordre du sexisme et des stéréotypes de genre, pour moi, c'est tellement. C'est comme si c'était logique, tu vois, que ce soit comme ça et que les hommes, c'est des hommes et puis ils ont pas de sentiments, ils s'attachent pas aux meufs et ils aiment pas s'exprimer sur leurs sentiments non plus, etc. Et Nick, c'est un peu la caricature de ça, ouais. C'est genre, c'est un vrai homme et surtout coach aussi, ça m'a vraiment frappé à quel point coach, quand il revient, donc il est là dans le tout premier épisode de la saison 1, après il est remplacé par Winston et après il revient, on sait pas trop pourquoi, il était pas là mais il revient.
En fait c'est que l'acteur avait une autre série et du coup il a dû partir.
Mais dans l'histoire c'est parce qu'il a emménagé avec une meuf et après il a rompu avec elle et bref, toute sa vie.
Et du coup il revient et en fait il est vraiment dans le jugement de la masculinité positive, tu vois. C'est à chaque fois que les autres, genre, ils disent « Oh bah, nous, on va se coucher tôt ou quoi », c'est genre « Quoi ? Mais vous êtes pas des vrais mecs et tout ?» Enfin, genre, c'est toujours des remarques comme ça qui fait coach. Et je suis là « Mais putain !» Enfin, genre, ça m'a d'autant plus frappé maintenant que je sais ce que c'est la masculinité toxique, les trucs comme ça. Et pour moi, coach, c'est typiquement ça, tu vois. C'est la masculinité toxique. Et Nick, c'est un peu ça aussi. C'est genre plus dans son éducation. C'est genre « Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. » Et c'est difficile de se dire que il y a des hommes qui sont pas comme ça, il y a des femmes qui sont pas crédules comme Jess et un peu naïves.
Mais tu vois, moi c'est justement pas pour toi Caro, mais je sais pas si ça a été pareil pour toi Lucie. Moi quand j'étais jeune et que je regardais, enfin quand j'étais plus jeune, pas vieille, mais quand j'étais plus jeune et que je regardais New Girl, j'avais vraiment extrêmement envie de ressembler à Jess, c'est-à-dire cette femme qui est un peu toc-toc, tu vois, et qui a quand même l'attention de tous les hommes, et donc parfois, tu vois, je me disais, ah ouais, en fait, il faut jouer un peu la débile pour arriver à avoir l'attention des mecs, pour qu'en fait, ils aient l'illusion que t'aies besoin d'eux, tu vois, et je sais que, genre, c'était vraiment un truc qui m'interrogeait. À ce moment-là. Et aujourd'hui, quand je re-regarde la série, en fait, Jess, je l'aime beaucoup, tu vois. Elle a plein de petites... Elle est très drôle, mais en fait, elle m'agace beaucoup plus.
Moi aussi, ouais.
Elle m'agace beaucoup plus qu'avant, parce que, en fait, c'est vraiment le stéréotype d'une femme, comme tu dis, Caro, qu'on a besoin d'aider, qui peut pas se débrouiller toute seule.
Puis même, elle-même, elle a vachement le syndrome de l'infirmière aussi, avec Nick notamment. Ouais. Genre, elle passe sa vie à vouloir réparer ce mec, à vouloir le faire grandir et tout, comme si c'était sa daronne. Je suis là, mais en fait, lâche-lui la grappe. Enfin, le gars, il a 30 piges, il sait rien faire de sa life à ce point-là, à ce stade-là. Tu peux rien faire pour l'aider. Et elle est toujours dans ce truc-là de, faut l'aider quand même, le pauvre Nick, il sait rien faire, machin. Et ça, pareil, ça m'insupporte maintenant. Et pour moi, en fait, Jess, c'est finalement le personnage qui a le moins de profondeur dans toute la série. Parce qu'en fait, tous les mecs, ils sont hyper creusés et ils ont tous ce côté...
La moins d'évolution, ouais.
C'est ça, elle est un peu toujours pareille du début à la fin. Et en parallèle, Sissi, qui est donc sa meilleure amie, pour moi, elle est beaucoup plus intéressante finalement parce qu'elle est... On fait vite référence à elle comme c'est la bombe du groupe parce qu'elle est mannequin, etc. Et il y a la plupart des mecs qui sont là, ils voient que son physique. Alors qu'en vérité, pour moi, c'est une femme ultra intelligente qui est très intéressante en fait comme personnage et pour moi beaucoup plus intéressante que Jess qui est finalement assez superficielle dans beaucoup de choses, dans sa façon de penser par rapport à beaucoup de choses, je trouve.
Et il y a aussi un troisième personnage féminin qui est introduit en fin de...
Reagan
qui en fait donc
six peut-être non je sais plus
mais en tout cas elle arrive pour remplacer Jess entre guillemets puisque en fait Zoé Deschanel était enceinte à ce moment-là donc en fait elle part en jury duty pendant un mois et d'ailleurs c'est très drôle je trouve comme excuse pour partir et donc pour la remplacer ils ont fait rentrer donc Reagan qui est ce personnage vraiment à l'opposé de Jess qui
c'est Megan Fox qui la joue en plus
c'est Megan Fox et donc très
Cool girl, quoi.
Cool girl, et en même temps, elle a vraiment, elle sait tout faire, tu vois, elle a besoin de personne, et d'ailleurs, ça met Nick dans une position où il est mal à l'aise parce qu'en fait, elle a pas assez besoin de lui et il sent pas assez
important.
Important. Et genre, du coup, je suis là, bah ouais, en fait, mec, c'est normal. Enfin, c'est comme ça que les relations fonctionnent de manière saine. C'est quand les gens n'ont pas besoin l'un de l'autre, mais qu'ils aiment bien être l'un avec l'autre, tu vois. Enfin, bon, ça, c'est ma vision des choses. Mais du coup, c'était intéressant cet ajout. En plus, dans New Girl, ils font des ajouts de personnages pour remplacer d'autres, mais ils les gardent quand même. Donc, quand Winston a remplacé Coach, bah, quand Coach est revenu, Winston n'est pas parti.
Oui, ils étaient juste pleins dans la même coloc.
Beaucoup trop.
Une coloc à 3 personnes à la base, ils se sont retrouvés à 12. Genre.
Ça n'a aucun sens. Le propriétaire est là, oui, tranquille. Et non, mais oui, après, Reagan, je pense que c'est aussi pour jouer le contre-coup de Jess. Et après, le problème, c'est que je trouve que ça clash entre les deux personnages. Enfin, elles deviennent moitié amies, moitié pas. Et enfin, je sais pas, je trouve que les deux vont pas dans le même univers. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, je trouve aussi que... Bah, en fait, le truc, c'est que pour moi, Reagan, elle a moins sa place dans New Girl, dans le sens où elle est pas hilarante comme meuf, tu vois. Mm-hmm. C'est rare qu'elle fasse... En fait, elle est très maligne dans ce qu'elle dit. Elle sort des petites punchlines un peu vénères, tu vois, mais c'est pas... C'est pas aussi feel good que tous les autres personnages qui sont débiles et drôles dans leur façon d'être.
Oui,
de façon générale.
Elle a une énergie un peu différente.
Elle est pas hilarante, tu vois. Juste, elle est. C'est une cool girl et c'est une meuf ultra bonne, ultra intelligente qui se laisse pas marcher dessus.
En fait, c'est un peu un fantasme, en fait. Genre, meuf, c'est justement le fantasme. Enfin, c'est genre. Depuis le début, Nick, il veut la meuf parfaite et tout. Et en fait, elle, bah, c'est la meuf... Bah, en plus, je pense que c'est fait exprès qu'elle soit interprétée par Megan Fox, qui, justement, représente un peu ce fantasme-là de la meuf qui est non seulement belle, bonne, intelligente, qui est une boss bitch, parce qu'elle a... Je sais plus ce que c'est son métier, mais en gros,
elle
c'est...
Elle est vendeuse de...
Ah, j'ai oublié.
De drugs, là. Enfin, ils disent drugs, mais c'est pas... C'est,
ah,
pas,
non, de,
c'est pas de la drogue, c'est des médicaments,
ouais. Et genre, ouais, elle est hyper indépendante et tout. Et enfin, en fait, elle a tout du fantasme de la meuf parfaite. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est pas là longtemps. C'est peut-être aussi, je sais pas, pour montrer qu'au final, cette meuf n'existe pas, tu vois. Donc, au final, quand Nick la rencontre et tout, ben, elle lui correspond pas parce qu'elle a beau être parfaite. Au final, c'est pas pour ça qu'il va avoir des sentiments pour elle, tu vois, et qu'elle est bien pour lui, enfin.
Puis c'est à peu près la seule meuf de toute la bande qui est pas une ratée, tu vois, parce qu'en fait, c'est ça.
Non, mais c'est vrai,
mais c'est genre tous un peu des bolos, et même Sissi, qui a quand même une carrière de mannequin et tout, au bout d'un moment, elle se rend compte que, bah, en fait, sa vie, elle va pas très loin dans le mannequinat, et qu'elle commence à vieillir, et qu'il faut qu'elle fasse autre chose de sa vie, et elle est là, genre, mais qu'est-ce que je fais, putain? Et en fait, ils sont tous comme ça, sauf Reagan, du coup, quand elle se pointe, et du coup, c'est vrai que ça fait un peu tâche au milieu de tout ça, et pour moi, c'est pour ça qu'elle fit un peu moins.
T'as des personnages qui se trouvent, enfin, Winston, qui devient policier, tu vois, oui. Typiquement. Je trouve que justement, on arrive dans la série à un moment dans la vie des personnages où ils sont un peu tous perdus et en fait, ils se trouvent les uns après les autres. Et
ils ont tous des aspects un peu bolos, tu vois. Genre, Winston, professionnellement parlant, ça se passe bien, mais genre, avec les individus qui ne sont pas des chats, c'est compliqué, tu vois. Enfin, genre, il a du mal à s'intégrer à sa bande de potes de flics. Il est amoureux de sa partenaire et en fait, il a du mal à connecter avec elle aussi. Enfin, tu vois, pour moi, c'est plus... Ils sont pas tous des bolos professionnellement parlant. C'est juste qu'ils ont chacun des aspects dans lesquels ils ont du mal à s'intégrer ou à trouver leur place. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'ils sont tous un peu relatable, tu vois. Enfin, genre, quand tu regardes, tu te dis « Ah ouais, j'avoue
». Oui, c'est clair. Bah, du coup, on a parlé misogynie. Maintenant, si on parlait racisme.
Ah là 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 là.
Génial.
Alors, je crois que t'as pas précisé que donc, le racisme, c'est parce que Sissi, donc la meilleure amie de Jess, est d'origine indienne, ça.
Ouais, c'est
et
ça.
Et donc, ça, tu l'as pas précisé au tout début. Et c'est ça
et
qui.
Et Winston est noir. Et
oui, c'est vrai,
Coach
en fait.
Aussi.
C'est vrai. Ah, mais oui, j'avais oublié.
Je savais pas capter. Couleur.
Non, mais c'est vrai, j'avais même pas capté que des fois, ils ont des remarques aussi.
Ouais. Mais donc du coup
c'est Winston de ouf.
Ouais ouais.
En fait il y a tout un épisode qui m'a un peu interloqué.
Je crois que je vois le cas.
Schmidt qui en fait Schmidt c'est vraiment le mec blanc de base et Nick et Schmidt c'est vraiment des mecs blancs de base et que du coup qui se font un peu éduquer par les autres parce que même si Jess elle a besoin de se faire aider par tous les mecs, finalement elle leur apprend aussi beaucoup de choses et elle leur apprend la nuance notamment. Et en fait, il y a un épisode où Schmidt veut absolument que Winston se sente à l'aise dans leur groupe de blancs, parce qu'ils sont que des blancs à la coloc, il y a juste Winston qui est noir. Et du coup, il est là, bon, bah, est-ce que genre ça te manque pas d'être avec des noirs et tout? Et genre, je suis là,
c'est la gênance
de la gênance
cet épisode.
Mais en même temps, c'est.
La morale
aussi...
est bien.
Hein?
Mais la morale, elle est bien.
Mais en fait, ouais, c'est, ouais, c'est juste que Winston, il se fout de sa gueule pendant tout l'épisode.
Ouais, oui, c'est ça.
Où genre, il est là, ouais, ouais, ça me manque de fou, vas-y, on va acheter du crack et tout, parce que, enfin, tu vois, et l'autre qui y croit, et genre, tu vois, ça n'a, c'est, pour le coup, c'est un épisode qui est bizarre, et en même temps, je pense, assez révélateur de l'époque, tu vois, où, bah, en fait, tu te poses des questions sur est-ce que t'es raciste ou non, parce que, en fait, on a tous des biens inconscients qui font que, bah, on peut avoir des réflexions racistes, ouais, mais s'en rendre compte, c'est comme ça qu'on les déconstruit, et c'est comme ça que, voilà. Et donc, en fait, je trouvais que c'était pas mal cet épisode, même s'il m'a gêné au début. C'était pas mal de, bah, de faire cette démonstration à Schmitt dans tout l'épisode que, bah, non, en fait, enfin.
Mais ouais, mais justement, pour faire un parallèle avec la misogynie, moi, j'ai trouvé que, justement, cet épisode-là, il avait une bonne morale, parce qu'en fait, donc, effectivement, Winston, il se fout de sa gueule, et à la fin, il lui dit, il lui fait comprendre à quel point c'était stupide, et du coup, on se dit, enfin, qu'en fait, c'était finalement une leçon pour Schmitt, tu vois. Alors que, pour le coup, donc, il y a tout un épisode où, alors, je sais plus pourquoi, mais je sais plus qui explique ça à Nick, mais en gros, quelqu'un explique à Nick que pour avoir plein de go en même temps, il faut aller taper dans les petites jeunes de 20 ans et tout, genre,
ah, oui,
les étudiants, c'est le début. Et en fait, c'est un épisode. Non, ça se passe même, genre, il y a 3 épisodes sur cette histoire. Et où je m'attendais aussi à une morale, et pas du tout. Où c'est vraiment juste 3 épisodes où, en fait, il y a que des meufs. Enfin, il est qu'avec des meufs de 20 ans et qui sont toutes stupides. Et en fait, il se rend compte qu'il suffit de dire ouais, je suis écrivain ou je suis barman. Elles sont là, oh my god, wow.
Et genre, tu sais faire des cocktails, oh my god.
Et genre, elles sont toutes ultra stupides et ridicules. Et en fait, c'est juste ça. Et après, c'est un épisode suivant. Et pour le coup, il n'y avait aucune leçon. C'était juste, ok, c'est juste normal que les filles soient débiles à 20 ans. Tu vois.
Oui, c'est ça. Ouais, ça donne un peu cette impression que, bah, en fait, tu ne peux pas être une vraie femme avant 30 ans. Genre, je suis là, quoi.
Ouais, c'est
très
peu
étrange. Mais du coup, niveau racisme, il y en a pas mal envers Sissi aussi,
ouais,
et,
ouais,
qui est ultra, comment dire, pas institutionnalisé, mais tu vois ce que je veux dire, il est, ouais, ultra ancré dans la relation Sissi et Schmitt, qui finissent ensemble et qui se marient. Et, enfin voilà, je pense que Schmitt est fou amoureux de Sissi, ouais, de A à Z, tu vois. Donc encore une fois, je pense pas que ce soit malvenu, mais il fait quand même que des remarques en rapport à sa couleur de peau.
C'est ça.
Et sur, sur ses seins, notamment, qu'il appelle Kumar. Enfin, tu vois, non mais... Fin...
Et c'est souvent qu'il fait des remarques comme ça par rapport à l'Inde ou quoi. Et genre, c'est très bizarre parce que... Enfin, même il y a l'épisode où ils vont tous à une conférence pour... une conférence de mariage avec plein d'Indiens. Et genre, Schmitt se pointe là-bas, habillé en tenue traditionnelle, oui, indienne et tout. Et j'étais là, oh my god, mais le mec
l'appropriation. Aucun respect.
Mais genre, c'est ça tout le long, c'est que Schmitt, c'est...
C'est le mec blanc de base.
C'est ça, mais pour le coup, il est vraiment tourné en ridicule. Et à chaque fois qu'il fait des remarques comme ça, même Sissi, elle le rembarre très régulièrement. C'est important à dire. Je pense aussi que Sissi, elle se laisse pas faire, tu vois. Enfin, genre, quand il lui fait des remarques par rapport à sa couleur de peau, elle est là. Oui, tiens, d'ailleurs, c'est quoi mon origine? Genre, au tout début, quand il sait pas, il est là. Oui, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Genre, il sait pas, il est juste, bah, tu es marrant, donc voilà.
Ouais,
genre,
c'est
trop gênant. Mais pour moi, c'est plus.
Mais en fait, ça part jamais d'une mauvaise intention. C'est juste un manque d'éducation, je pense, de la part de Schmitt. Après, c'est bizarre de faire que ce soit un running joke, enfin un running gag dans la série, tu vois. C'est vraiment, c'est ancré dans leur relation. Lui, pareil, tu vois, Sissi, c'est un peu son fantasme. Exotique et tout, et en fait elle est vue que par ce prisme là jusqu'à ce que bah ils décident de vraiment la choisir, et même encore après en fait ça reste au cœur de leur de leur relation, quoi. Mais en fait j'ai remarqué, parce que moi du coup j'ai beaucoup rebingé des sitcoms pendant ce confinement, et parce que bah toujours pareil, ça me semble très
réconfortant.
Et du coup bah notamment il y a Friends, mais bon ça on s'étalera pas là-dessus parce que bah on sait que Friends c'est quand même très homophobe,
transphobe, plus vieux quoi, donc
c'est
normal que ça
soit vraiment
plus vieilli, quoi,
donc ça a encore plus vieilli. Mais en fait je voulais notamment parler d'une série qui s'appelle Modern Family, je sais pas si vous l'avez vue.
Non, j'ai jamais regardé.
Et donc en fait il y a c'est l'histoire d'une famille, et en fait j'avais oublié, pareil, c'est il y a la 11e saison qui s'est terminée cette année, donc c'est quand même une série qui date un petit peu. Mais en fait là j'en suis au rebingeage de la saison 7, et encore il y a pas mal de remarques racistes envers la petite fille du couple homosexuel, ils ont adopté une petite fille du Vietnam, et donc ils arrêtent pas de faire des vannes sur le fait qu'elle vient du Vietnam. Genre, à un moment, elle est en train de faire... son père est en train de lui faire les ongles, et il se marre, tu vois, et elle fait « Oui, c'est bon, j'ai compris, je suis asiate », et genre, il fait « Ouais, mais c'est drôle que ce soit dans ce sens-là », et tout, et genre, je suis là...
Comment, oh my god!
Genre, comment c'est possible ce genre de blague? Ouais, c'est vraiment très bizarre. Et j'ai l'impression que, du coup, comme les sitcoms vont chercher l'humour facile, enfin, tu vois, c'est pas au sens mauvais du terme facile, tu vois, c'est juste que c'est facilement compréhensible par tous et toutes. En fait, ça tombe vite dans la misogynie, dans vraiment scinder les femmes et les hommes. En plus, donc, dans Modern Family, il y a une. La femme du père de famille, enfin du patriarche, qui s'appelle Jay, qui a une soixantaine d'années, et il est marié à une femme de 35 ans qui est colombienne, et elle a toutes les caractéristiques de la colombienne, enfin comme on l'imagine,
oui, très stéréotypée,
qui crie, qui est latine, enfin tu vois, très pulpeuse et en même temps très belle, tous les hommes la veulent, et donc je sais pas, je trouve que en règle générale dans les sitcoms, c'est un peu ce penchant de l'humour est un peu dégueu. Dans How I Met Your Mother, c'est clairement de la misogynie de bout en bout avec
Barney
Stinson.
Moi, c'est pour ça que je peux pas regarder. Genre, en fait, j'ai regardé quelques épisodes parce que l'ancien coloc de mon mec, il regardait tout le temps. Genre, c'était sa série préférée. Et à chaque fois, j'étais là, mais en fait, moi, ça me fait pas rire. Genre, je suis désolée, mais
tu l'as regardé trop tard.
Bah, c'est ça, c'est que j'ai regardé. Bah voilà, il y a 2 ans, tu vois, et j'avais vraiment du mal à trouver ça marrant, en fait, tu vois, même si effectivement c'est un personnage caricatural, mais je sais pas, j'avais trop du mal à trouver ça drôle, en fait.
Mm-hmm. Et en fait, pardon.
Non, vas-y.
Non, c'est vrai que, en fait, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est propre au sitcom, parce que vu que moi j'en regardais pas et que j'ai commencé par une qui était assez woke, c'est-à-dire Brooklyn Nine-Nine, j'avais pas ce prisme là et tout, mais je me dis que c'est peut-être parce que, en vrai, les sitcoms, il n'y a pas vraiment d'intrigue, c'est vraiment plein de petits... Enfin, plein
c'est
de petites,
des sketchs, quoi.
Ouais, c'est plein de petits sketchs, plein de petites situations du quotidien et tout. Donc, effectivement, genre, en fait, comme il leur arrive rien de spécial, forcément, les blagues, s'ils veulent en plus les multiplier, parce que c'est vraiment gag sur gag, quoi, gag sur gag, les sitcoms, et ben, c'est vrai que du coup, ils se mettent forcément à prendre des blagues un peu partout là où ils peuvent, quoi, et que du coup ils peuvent tomber dans l'humour facile comme ça. C'est vrai que s'il y avait genre des grosses intrigues et des missions et des aventures et tout, il y aurait plein de matière à faire des blagues qui n'auraient rien à voir avec la vie de tous les jours et du coup qui justement seraient pas périmées, comme tu disais. Mm-hmm. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, donc je trouve ça assez...
Mais après, en fait, les deux sitcoms, je dirais qu'ils sont très loin. Donc il y a Brooklyn Nine-Nine qui pour le coup est super woke, et il y a aussi The Office qui est vraiment... pour le coup, super raciste, super homophobe, super tout, mais en fait, ça vient que d'une seule personne.
Oui, qui est le chef, qui est complètement
le manager. Et donc, en fait, c'est vraiment pointer du doigt le débile. Mais après, c'est toujours sur la ligne, parce que tu finis par t'attacher à ce mec-là. Donc, tu dis, mais est-ce que vraiment rigoler à ses blagues, c'est vraiment... Enfin, tu vois, est-ce que ça passe? Est-ce que... Enfin, je sais pas. C'est vraiment une question.
Est-ce que ça reste pas une excuse pour continuer à faire ce genre de blague, quoi? Parce qu'au final, les gens, ils vont rire. Mais en même temps, ils disent, ouais, mais c'est parce qu'il est con. Mais en même temps, ils rigolent quand même. Donc, est-ce que ça vaut le coup?
Ouais. Mais en fait, dans The Office, quand même, tu cringes plus que tu rigoles, je pense. Parce qu'il est vraiment super gênant, Michael. Mais voilà, c'était un peu les deux seules séries de sitcom. Parce que moi, pour le coup, j'aime bien les sitcoms, que je trouve assez... pour le coup, pas moins problématique, soit très problématique, parce que du coup, ça désamorce le truc, soit pas du tout problématique, comme Brooklyn Nine-Nine. Et il y a un autre truc aussi, qui est un peu choquant, même pour 2018, je pense, qui est la fin de la série, c'est que c'est une série quand même très hétéronormée.
Choc!
Pour une série de 2011, passe! Pour une série de 2018, étonnant. Voilà, ça se termine donc en 2018 avec le mariage de... Non.
Si,
c'est le mariage.
Il se marie Nick et Jess à la fin, je me rappelle plus, oui.
Oui, il se marie Nick et Jess. Et donc,
d'ailleurs,
en fait,
le seul mariage qu'on voit pas, c'est celui de Ali et Winston.
Comme par hasard, les deux minorités.
Choc.
Et non, mais oui, c'est... Du coup, ils sont à la fin, tous en couple, hétéro. Comme si la vie, ça aboutissait à ça.
Je pensais, il y a quand même des personnages gays qui sont les amies lesbiennes de Jess, dont une qui est gynéco. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment le truc où ils en rajoutent, ils en font des caisses que cette meuf est gynéco et qu'elle est lesbienne. Et genre, il y a tout un épisode où c'est pour la fête. Comment ça s'appelle ?
C'est comme si un mec gynéco était dégueulasse, tu vois. Mmh.
Non, mais
avec
c'est
les meufs, tu vois.
Mais genre, c'est surtout que c'est déjà Schmitt, il passe son temps à aller voir cette meuf et à lui dire : toi qui es lesbienne, tu peux m'apprendre des choses en termes de cul et
ah
tout.
Oui,
genre,
l'épisode gênant où il arrive à la séduire parce qu'il dit : oh, ça...
Mais oui, après, ça reste quand même. Même les potes gays de Jess restent des personnages très, très secondaires. Tout est tourné autour des relations amoureuses hétéro. Enfin voilà, c'est et puis la séparation Fifi Gaga là, ça me.
Ouais.
C'est.
Oui, et puis il y a un épisode aussi où Jess elle fait du speed dating, elle tombe sur un mec et et il lui dit qu'il est bi, elle fait ok, elle s'en va.
J'avoue,
c'est censé être
regardé
un gag,
hier
genre,
cet épisode.
J'étais là pourquoi, enfin c'était, j'ai pas compris pourquoi c'était drôle. Mais oui non, mais ce que je voulais dire aussi à la fin de la saison 7, donc. En fait, c'est un épisode émouvant et tout, mais genre émouvant. Genre ils ont choisi l'émotion facile en mode on les voit tous quelques années plus tard avec leur famille. Et voilà, ils sont tous bien rangés, hétéros avec leur grande famille et tout, et leurs enfants et tout ça. Et en fait, bah, c'est là que je me dis c'est quand même dommage que sur trois persos principaux et toute leur famille et tout, il y en ait pas un seul qui soit LGBT. Et en fait, je me dis, peut-être qu'ils se sont dit, vu qu'ils ont commencé en étant tous hétéros, si à la fin, juste pour faire que ce qui. Enfin, peut-être qu'ils se sont dit, si tout d'un coup on dit qu'il y en a un qui est gay ou lesbienne, ça fait genre on a voulu être inclusif et tout. Mais moi, je trouve que du coup, bah, je vais spoiler Brooklyn Nine-Nine, du coup, c'est pas grave.
Vas-y, ok, full spoiler.
Du coup, full spoiler, bah, du coup, dans Brooklyn Nine-Nine, ils ont un peu fait ça quand il y a Rosa, du coup, qui fait son coming out où elle est bisexuelle. Et en fait, c'est juste, on apprend juste que. Elle l'a toujours été, mais juste, ben, comme en plus c'est une meuf qui est très secrète et qui raconte pas trop sa vie, ben, ça passe hyper bien parce qu'elle dit en fait, je l'ai toujours été, mais ben voilà, je voulais pas vous le dire parce que ben voilà, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Et du coup, je trouve qu'ils auraient pu faire un truc comme ça en fait. Ça m'aurait pas choqué qu'il y en ait un qui dise, j'ai toujours été ça, mais je vous le dis comme maintenant. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y avait moyen d'être inclusif sur la fin et d'évoluer sans que ça fasse trop queerbaiting.
Ouais. Mais bon. Oui, d'autant plus que genre, je pense à Winston, il y a toute une partie où il est avec aucune meuf, il voit personne parce qu'il est avec son chat en permanence. Et genre, c'est pas comme si c'était le gars où son but c'était de choper des meufs, tu vois. Donc pour moi, c'est genre, typiquement, ça m'aurait pas choqué qu'un jour il pécho un mec et que tu vois. Alors que.
Ah ouais, moi j'aurais dit que Schmitt aurait pécho un mec.
Ouais, moi aussi.
Oui, ça aurait pu aussi, tu vois, mais Schmitt il est plus dans le truc de. Les meufs, tu vois, genre Winston, il en parle pas tant que ça.
Dans l'apparence, ouais, Schmitt.
Oui, aussi. Et
même Nick, il fait souvent des petites remarques, genre, tu sais, il dit carrément à un moment donné, il dit qu'il est amoureux de comment il s'appelle. L'ex-Jess de Russell, il dit, je suis amoureux de lui, Jess, c'est toujours, il veut.
Ouais, mais ça, c'est cool, tu vois, genre.
Ouais, mais ça, c'est bien, tu vois.
Mais justement, c'est plus tourné en ridicule pour le coup quand il dit, c'est l'homme de ma vie et tout, je crois que je suis amoureux de lui. Et c'est plus. Montrer comme un truc drôle alors qu'en soi, ben, c'est pas très drôle d'être amoureux d'un homme si t'es un homme. Genre, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est la vie.
Non, mais c'est ça. Et...
Mais oui, c'est clair que ça reste quand même une vision assez hétéronormée des choses
bah
que je pense qu'il n'existerait pas. Oui, il y a Regan
qui est
bisexuelle,
mais bon, qui est là
c'est
pour
vrai.
Genre une saison.
Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça.
Mais du coup,
ça.
Même le fait qu'elle soit bisexuelle devient une sorte de. Mais comme souvent dans les sitcoms, c'est waouh, t'es bisexuelle, tu couches avec des meufs, waouh, je peux voir.
Voilà,
tu
vraiment
vois.
Tout du fantasme. En fait.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment un fantasme.
Oui,
vivant.
Puis très décomplexé à ce niveau-là.
Ouais,
et
ouais,
tout,
c'est ça. Mais du coup, avec cette nouvelle. Lumière sur New Girl, est-ce que typiquement c'est une série que vous voudriez re-regarder plus tard parce que par exemple toi tu vois t'as jamais voulu revoir How I Met Your Mother, moi c'était une de mes sitcoms préférées que parfois il y a certains épisodes que je zappe aujourd'hui parce que voilà ça n'est plus
c'est
du
pas
tout,
possible
c'est plus possible mais en fait c'est vraiment un truc avec lequel j'ai grandi donc je continue de le regarder et en même temps je suis très critique de ma façon, enfin de comment je le regarde. Alors est-ce que New Girl vous le re-regarderiez différemment ou est-ce que vous seriez prête à le re-binger ou c'est genre terminé pour vous
Moi c'est une série que j'ai toujours aimée de toute façon et que enfin je me vois pas dire je veux plus jamais regarder New Girl parce que ça n'aurait aucun sens et même les épisodes
ça n'aurait aucun sens. Non. Ma vie serait dénuée de sens.
Non mais tu vois même l'épisode de Schmitt qui dit à Winston « Est-ce que ça te manque pas de traîner avec des gens noirs ?» Tu vois, genre, ça m'a mis ultra mal à l'aise tout le long, mais ça reste hilarant comme série. Et même les moments qui sont un peu limite en termes de « Nous, les hommes, on est comme ça, et vous, les femmes, vous êtes comme ça. » Ben, en fait, ça fait partie de la série. Les personnages, ils sont de toute façon imparfaits. Et moi, je pars du principe que, ben voilà, c'est normal d'une façon ou d'une autre que ça soit pas complètement woke, parce que les personnages ne sont pas woke finalement, mmh. et c'était à une période où c'était normal de pas être woke. Et non, non, c'est pas un truc qui va me gêner, c'est un truc que, voilà, comme toi, je remarque maintenant que je bon, en plus, chez Mademoiselle, on est très, tourné vers tout ce qui est masculinité positive, enfin, j'en sais ce que c'est, et donc forcément, tu remarques plus ces choses-là dans ton quotidien. Mais non, c'est pas un truc qui va me gêner au point de plus jamais regarder, non, ça c'est
puis
sûr.
Même, je
non.
trouve que la série, pour le coup, s'essaie à des évolutions, même le personnage de Winston, qu'on pourrait ouais. dire, est la caution un peu noire, tu vois, de la série, où, enfin, au début, la première saison, je suis désolée, mais ça paraît ouais. vraiment comme ça, et en fait, il lui trouve vraiment une profondeur, et vraiment
une originalité qu'on trouve dans... Voilà. Oh, c'est ça, c'est un personnage qu'on creuse le personnage par ailleurs, et ouais, ouais.
Beaucoup plus que... Du coup, c'est intéressant aussi de voir l'évolution des épisodes au fil des saisons.
Moi, justement, si ça avait pas du tout évolué au fil des saisons, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais arrêté de regarder, puisque, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé la saison 1, j'étais vraiment genre, je crois que je vais arrêter. Et en fait, il y avait 50% de gros cringe, de « Oh mon Dieu, c'est si sexiste !» et 50% de « Putain, c'est si hilarant ouais. !» Et aussi, une part de moi qui me disait « J'ai envie de voir si ça évolue, tu vois, avant de dire que c'est de la merde jusqu'au bout, tu vois. » Et donc, du coup, effectivement, donc, j'ai trouvé que ça a évolué quand même très doucement. Mais genre, je sais pas, à partir de la saison 4-5, il y a de moins en moins de trucs problématiques forcément, et je trouve que, en fait, j'ai remarqué du coup que dans les deux dernières, donc la 6 et la 7, il y a presque plus rien en fait qui me dérangeait. Donc forcément, si je la revois dans 5 ans, probablement qu'il va y avoir des trucs qui vont me déranger, tu vois. Mais là, du coup, maintenant que je l'ai vu et que je sais à quoi m'attendre, ben forcément, moi aussi, je vais évoluer. Donc si je la revois, là, comme je dis, je vais peut-être être un peu gênée aussi, mais je pense que je vais pas être hyper surprise. Enfin, je sais à quoi m'attendre. Je sais que qu'il y a plein de trucs qui m'ont dérangé. Donc, si je décide de la regarder, a priori, enfin, de la revoir, a priori, c'est que je sais dans quoi je m'engage. Et puis, je rigole tellement devant que si je fais abstraction de tout ce qui me gêne, ben, je sais que dans tous les cas, je vais rire devant parce que, enfin, c'est franchement hilarant. Et puis, comme je disais, les personnages, ils évoluent beaucoup. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant. Et au bout d'un moment, en plus, même, il y a le personnage de Ali, du coup, qui devient oui. la femme de Winston.
Ouais,
elle, pour le coup, justement, là, j'ai vraiment aimé l'épisode où on la rencontre parce que, à la base, donc du coup, c'est hyper problématique, encore une fois. C'est genre Schmidt et Nick qui sont là. C'est Nick et Coach, je crois, forcément, les deux gros mecs virils de la bande qui sont là. Attends, mais ta partenaire, parce que oui, donc c'est la partenaire. Donc quand Winston devient policier, il est mis avec elle pour sa partenaire de. Comment on dit ? Bon, ça part de police, voilà. Et ils sont là, mais attends, mais patrouille. Ta première, c'est une femme et tout. Exactement, de patrouille. Et en fait, ils sont là, non, notre bébé Winston, elle pourra pas le protéger, c'est une femme et tout. Et en plus, quand ils la voient, ils voient que c'est une femme qui est assez petite, relativement menue et tout. Ils sont là, elle pourra jamais être protégée et tout, c'est horrible. Jusqu'à ce qu'elle leur mette un gros taquet qui soit là, ok, c'est bon, elle est géniale. Et là, j'étais là, oui, merci, enfin, une bonne morale, tu vois. Enfin,
ils sont trop chiants.
Ouais. Et du coup, j'ai trouvé que c'était quand même trop long avant cette conclusion parce que c'était vraiment gênant pendant un long moment de trucs hyper misogyne, de trucs, oh, c'est une femme, elle est petite et tout, avant la conclusion, mais au moins il y avait la conclusion. Donc tu vois, enfin vraiment, je pense que les dernières saisons, c'est vraiment celle que j'ai préférée au final, parce que Jess, je la détestais pendant un long moment jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus badass et qu'elle ait un peu plus de profondeur. Enfin, je dirais pas qu'elle est devenue badass, mais bon, elle est devenue... Je la détestais vraiment au début et ça m'avait trop dérangée de me rendre compte que dans une série, il n'y avait pas un seul personnage féminin que j'aimais vraiment et tous mes persos préférés, c'était des mecs. C'est vraiment ce qui m'avait mis la puce à l'oreille au début de... Mais pourquoi je n'aime pas les personnages féminins ? Eh bien, c'est parce qu'ils étaient pas très bien traités et pas très bien écrits.
Ouais, c'est clair.
Mais du coup, ouais, je pense que là, rien que les dernières saisons, en vrai, je trouve que ça a pas perdu en qualité. Moi, personnellement, même la dernière saison, je l'ai bien aimée. Donc, je pense que je regarderai encore.
J'ai trouvé ça intéressant ce que tu disais par rapport au fait que si tu le regardes plus tard, t'auras évolué. Parce qu'en fait, je me dis, moi, quand j'ai regardé ça en premier, j'étais au lycée. Et c'est vrai que du coup, tout ce qui est de l'ordre des relations amoureuses et tout, en vrai, j'avais eu peut-être un mec dans ma vie à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que la série, ça, j'avais l'impression que ça m'apprenait des trucs en mode, voilà comment sont les relations amoureuses, sexuelles, etc. Et en fait, maintenant que je regarde, je suis là, lols. Parce qu'en fait, tu te rends compte que t'as grandi toi aussi et que l'image que la série te renvoie sur ce que c'est les relations, c'est un peu stéréotypé, pas très, pas très ouvert à beaucoup de choses, tu vois. Genre, des fois, ils parlent de pratiques où ils sont là, ouais, c'est vraiment un truc de ouf et tout. Et je suis là, en fait, bof,
tested
tu vois.
Tested and not approved.
Mais c'est ça, enfin, il y a des trucs où ils en parlent comme si c'était un truc de ouf, alors que c'est un peu un truc random qui est plutôt commun finalement. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où mon regard d'adulte est pas du tout le même que celui que j'avais quand j'étais plutôt ado finalement au lycée. Et je trouve ça intéressant d'évoluer avec la série comme ça et de te dire, ouais, finalement, maintenant, je vois ça différemment que quand j'étais plus jeune, quoi.
Rendez-vous dans 5 ans pour reparler de New Girl.
Allez.
quand il y aura une nouvelle pandémie mondiale et qu'on aura
un nouveau... Non, mais en vrai, si on est de nouveau choqué, c'est bon signe. Ça veut dire que la société évolue, non?
Ouais, c'est vrai.
C'est clair. Vrai. J'ai hâte d'être de nouveau gênée par New Girl.
Bah, merci beaucoup, en tout cas, les filles, d'avoir participé
merci
à cet
toi,
épisode.
Merci.
Ça m'a fait super plaisir de vous avoir dans cet épisode. Et j'espère que vous avez kiffé aussi, chers auditeurs et auditrices de Sors le Popcorn. Si vous avez kiffé et que vous êtes restés jusque-là, bah, c'est l'occasion de nous mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, puis nous mettre 5 étoiles tant qu'on y est, et puis vous donner rendez-vous la prochaine fois dans un nouvel épisode
oui.
de Sors le Popcorn. Allez, ciao!
Bye bye! Bye.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.